Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a
C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma radio chérie, Fréquence 7. Non, pas chérie FM, hein, ma radio chérie, ma radio adorée, Fréquence 7. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire rire et réfléchir à la fois et de vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas, un personnage pourtant très connu. Un personnage dont la célébrité dépasse les siècles, les générations et les âges. Il est connu dans le monde arabo-musulman sous différents noms. En Turquie, en Iran, au Pakistan, on l'appelle, vous avez reconnu ? Nasreddin Hoca. Dans le monde arabe, il s'appelle Jia ou Goa ou Cha. Dans d'autres lieux, il est l'idiot, le simplet, le fou sage. Et très souvent, on peut retrouver dans nos très anciens contes français des histoires qui se rapportent à celles de Nasreddin. Certains disent qu'il a vécu à Koufa, au sud de l'Irak, au 8e siècle. D'autres affirment qu'il a passé sa vie dans un village d'Anatolie, en Turquie, où on peut même voir sa tombe, si, si. Il y a même quelqu'un qui assure que Jia est enterré en Algérie et que les gens visitent sa tombe comme on honore celle d'un saint. C'est dire l'importance du personnage dans l'imaginaire et la vie des gens d'Orient. Il est extrêmement rare de trouver quelqu'un qui ne connaisse pas une ou plusieurs histoires de Jia, de Nasreddin. Souvent, il suffit de prononcer son nom pour voir votre interlocuteur se préparer à écouter quelque chose d'important avec le sourire aux lèvres. D'ailleurs, dans le monde arabe, on appelle les histoires de Jia, de Nasreddin, des raretés, des perles rares. Ces histoires sont en général assez courtes, nues, coupantes comme la vérité. Et derrière chacune d'elles se cache une sagesse simple comme la lumière du jour. Nasreddin Hoca peut être grave, sérieux ou absurde, mais ce qu'il dit n'est jamais gratuit. Derrière le rire que suscitent ces histoires, il présente à chacun la vérité dans toute sa cruauté. Certaines de ces histoires sont devenues tellement célèbres qu'on ne les raconte presque plus dans leur intégralité. Les gens se contentent souvent du titre. Entre nous, les conteurs, c'est pareil. On se dit, c'est comme telle histoire de Nasreddin et tout le monde rigole parce que tout le monde la connaît. Et très souvent, on entend dire aussi, méfie-toi de cette affaire, elle ressemble à l'histoire du clou de Nasreddin. Et ça suffit pour savoir ce qui est arrivé avec cette histoire du clou et de ne pas se faire avoir. Vous voulez en entendre quelques-unes? Eh bien, les voilà. Le fils de Nasreddin avait 13 ans. Il ne se croyait pas beau. Il était même tellement complexé qu'il refusait de sortir de la maison. « Les gens vont se moquer de moi », disait-il sans arrêt. Son père lui répétait toujours qu'il ne faut pas écouter ce que les gens disent, parce qu'ils critiquent souvent à tort et à travers. Mais le fils ne voulait rien entendre. Nasreddin dit alors à son fils « Demain, tu viendras avec moi au marché ». Fort tôt le lendemain matin, il quitte la maison. Nasreddin Hoca s'installe sur le dos de l'âne et son fils marche à côté de lui. À l'entrée de la place du marché, des hommes étaient assis à bavarder. Et à la vue de Nasreddin et de son fils, ils lâchent la bride de leur langue. « Regardez cet homme, il n'a aucune pitié. Il est bien reposé sur le dos de son âne et il laisse son pauvre fils marcher à pied. Pourtant, il a bien profité de la vie. Il pourrait laisser la place aux jeunes. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ce qu'ils viennent de dire ? Demain, nous retournerons à marcher ensemble. » Le deuxième jour, Nasreddin et son fils font le contraire de ce qu'ils ont fait la veille. Le fils monte sur le dos de l'âne et Nasreddin marche à côté de lui. À l'entrée de la place, les mêmes hommes étaient là. Ils s'écrient à la vue de Nasreddin et son fils, « Regardez cet enfant ! Il n'a aucune éducation, aucune politesse. Il est tranquille sur le dos de l'âne alors que son père, le pauvre vieux, est obligé de marcher à pied. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ce qu'ils ont dit ? Demain, nous retournerons au marché, tous les deux ensemble. » Le troisième jour, Nasreddin Hoca et son fils sortent de la maison à pied, en tirant l'âne derrière eux. Et c'est ainsi qu'ils arrivent sur la place. Les hommes, à nouveau, les mêmes, se moquent d'eux. « Regardez ces deux imbéciles. Ils ont un âne et ils n'en profitent même pas. Ils marchent à pied sans savoir que l'âne est fait pour porter les hommes. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, nous retournerons au marché ensemble. » Le quatrième jour, lorsque Nasreddin et son fils quittent la maison, ils sont tous les deux juchés sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les mêmes hommes laissent éclater leur indignation. « Regardez ces deux-là, ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. » Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le cinquième jour, Nasreddin et son fils arrivent au marché, portant l'âne sur leurs épaules. Les hommes éclatent de rire. « Regardez ces deux fous, il faut les enfermer, ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos. » Et Nasreddin dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Alors voilà, quoi que tu fasses dans ta vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. » Nasreddin avait envie d'apprendre la médecine. Il alla voir le médecin le plus célèbre de sa ville et lui fit part de son désir. « Tu tombes bien, lui dit le médecin. Je vais visiter quelques malades. Viens avec moi, tu pourras ainsi apprendre le métier sur le terrain. » Nasreddin accompagne le médecin chez le premier malade. Le médecin regarde à peine le patient et lui dit « Ton cas est très simple. Ne mange plus autant de cerises. Bois une tisane avant de dormir et demain, tu seras guéri. » Waouh ! Nasreddin est plein d'admiration. Dans la rue, il ne tarit pas d'éloges. « Oh, maître, vous êtes vraiment un grand médecin. Comment, sans toucher même le malade, avez-vous pu deviner de quoi il souffrait ?» Le médecin lui répond, « C'est très simple. J'ai regardé sous le lit. J'ai vu qu'il y avait un gros tas de noyaux de cerises. J'en ai déduit qu'il en avait trop mangé. » Nasreddin se dit que la médecine est plutôt simple et qu'il peut l'exercer à son tour. Il va se déclarer médecin et dès le lendemain, il va visiter son premier patient. Il entre, regarde sous le lit et ne voit que les vieilles babouches du malade. Alors il lui dit « Ton cas est simple. Ne mange plus autant de babouches, bois une tisane avant de dormir et demain, tu seras guéri. » What a wonderful world. Un soir que Nasreddin revenait de son travail dans les champs avec des vêtements sales et crottés, il entendit chanter et rire et il comprit qu'il y avait une fête dans les environs. Or, chez nous, quand il y a une fête, tout le monde peut y participer. Nasreddin poussa donc la porte de la maison et sourit de bonheur. Une bonne odeur de couscous se dégageait de la cuisine. Mais il ne put aller plus loin. Il était tellement mal habillé, tellement sale, qu'on le chassa sans ménagement. En colère, il courut jusqu'à sa maison. Il mit son plus beau manteau et revint à la fête. Cette fois, on l'accueillit, on l'installa confortablement et on posa devant lui à manger et à boire. Nasreddin prit alors du couscous, de la sauce, du vin et commença à les verser sur son manteau. Il disait « Mange mon manteau, bois mon manteau » et il versait à nouveau du couscous, de la sauce et du vin. « Mange mon manteau, bois mon manteau !» L'homme qui était assis à côté de lui était effaré. « Mais que fais-tu, malheureux ? Es-tu devenu fou ?»« Non, l'ami, lui répondit Nasreddin. En vérité, moi, je ne suis pas invité. C'est mon manteau qui est invité. » Somewhere over the rainbow. Nasreddin vint frapper un jour à la porte de sa vieille voisine Fatima. « Ma sœur, peux-tu me prêter une de tes marmites ? J'en ai besoin pour faire mon repas. »« Bien sûr, lui dit-elle, je vais te la chercher. » La voisine revint avec une marmite de taille moyenne qu'elle donna à Nasreddin. Le lendemain, Nasreddin posa une petite marmite à l'intérieur de la première et frappa à la porte de sa voisine. « Merci beaucoup, ma sœur. Voilà ta marmite, elle m'a rendu grand service. Mais Nasreddin, la petite à l'intérieur n'est pas à moi.
Mais si.
Cette nuit, ta marmite a accouché d'une petite. C'est sa fille, donc elle te revient de droit.
La voisine se moqua de la crédulité de Nasreddin, mais elle fut contente de gagner une petite marmite.
3 jours plus tard, Nasreddin Hoxha frappa à nouveau à la porte de sa voisine. « Petite sœur, peux-tu encore me prêter une de tes marmites ?»«
Avec joie, lui répondit-elle, je m'en vais te prêter la plus grande et la plus belle. »
La voisine espérait, en son fort intérieur, récupérer une deuxième belle marmite. Nasreddin prit la grande marmite, remercia la voisine et rentra chez lui. 2 jours passèrent, puis 4, puis 7, sans aucune nouvelle de Nasreddin. La voisine commença à s'inquiéter sérieusement. Elle finit par frapper à la porte de son voisin et lui dit « Petit frère, je crois que tu as oublié de me rendre ma marmite ?»«
Ah, je n'ai pas oublié, mais je ne savais pas comment t'annoncer la mauvaise nouvelle. »
En vérité, alors qu'elle accouchait, ta belle marmite est morte dans la nuit dans des souffrances abominables.
Tu serais pas en train de te moquer de moi, Nasreddin ?
Où a-t-on entendu parler d'une marmite qui meurt ?
Malheureusement, voisine, dans la vie, tous ceux qui enfantent meurent un jour.
Tu as bien accepté que ta première marmite accouche. Il faudra bien admettre maintenant que la seconde est morte.
Et Nasreddin garda la grande marmite.
What a wonderful world.
Ah, dans les histoires de Nasreddin, il y a toujours aussi sa femme, Khadija. Khadija, c'est une femme qui est bien courageuse d'avoir un mari comme celui-là. Un matin, Khadija, la femme de Nasreddin, vint dire à son mari « Le couscous qui nous reste suffit à peine pour 3 jours. Il faut que tu penses à chercher du travail. »«
Ah non !» répond Nasreddin. « Par contre, prépare un bon repas avec tout ce qui reste de couscous et attrape 2 souris qui se ressemblent. Et tu verras. »
Intriguée, Khadija se hâta de capturer 2 petites souris qui se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau et les donna à son mari. Celui-ci planta un clou dans le mur et y attacha l'une des 2 souris avec une ficelle. Puis il mit la 2e dans une cage et dit à sa femme « N'oublie pas de préparer le couscous. Je reviens à midi avec mes amis. » Et Nasreddin s'en alla avec la cage. Lorsqu'il arriva au café, tout le monde se moqua de lui. « Es-tu devenu fou pour promener une souris dans une cage ? Un perroquet ou un rossignol, nous aurions compris, mais une souris ?»«
Bande d'ignorants !» leur répond Nasreddin. « Ce n'est point une souris ordinaire que vous voyez devant vous. C'est une souris savante !»«
Comment ça ?»«
C'est très simple, et vous pourrez le vérifier vous-même. Est-ce que vous souhaitez déjeuner tous chez moi à midi ?»
« Bien sûr, si tu nous invites !»
Nasreddin s'adressa alors à la souris. « Toi, souris, ouvre bien tes oreilles. Va à la maison et dis à ma femme de préparer un bon couscous. Je viendrai le déguster avec mes amis à midi. »
Nasreddin ouvre la porte de la cage et la souris, toute contente, s'en va en courant se réfugier dans le jardin voisin. À midi, les hommes, incrédules, accompagnent Nasreddin chez lui et trouve le bon repas qui les attend. Dans un coin, il voit la souris attachée.
Ah ben, il pense immédiatement que c'est celle qui a quitté la cage 2 heures auparavant.
L'un des hommes, qui s'appelait Mustapha, prend la parole et lui dit « Nasreddin, j'achète cette souris pour 100 dinars. »«
Seulement 100 dinars pour une souris savante ?» lui répond Nasreddin.
« Tu n'es pas sérieux, mon ami. »
Mustapha ajoute 100, puis 100, et encore 100, et Nasreddin finit par accepter de vendre sa souris pour 500 dinars.
Le nouveau propriétaire, Mustapha, est fier de son acquisition. Le lendemain, il arrive au café avec sa souris dans la cage.
« Mes amis, aujourd'hui, nous mangerons chez moi. »
Puis il s'adresse à la souris. « Toi, souris, ouvre bien tes oreilles. Va à la maison dire à ma femme de préparer à manger. » J'invite mes amis pour midi.
Mustapha ouvre la porte de la cage et la souris s'en va rejoindre sa cousine dans le jardin voisin.
À midi, Mustapha invite ses amis à l'accompagner. Nasreddin veut partir, prétextant un mal au ventre soudain.
Ah non, lui dit l'homme. Hier, nous avons mangé chez toi. Aujourd'hui, tu es obligé de m'honorer à ton tour. Nasreddin finit par céder. Et les hommes arrivent chez Mustapha, l'appétit en éveil. Mais vous l'avez deviné, la femme n'a rien préparé. Elle n'a bien sûr pas vu la souris savante. Elle se moque même de son mari, mais comment peux-tu croire une histoire pareille? C'est évident, Nasreddin t'a trompé pour te voler. Mustapha est furieux. Il se retourne vers Nasreddin et lui dit « Rends-moi mon argent tout de suite, sinon je fais un malheur. » Nasreddin fait semblant de s'énerver à son tour. « Comment? Tu as perdu une souris que j'avais éduquée pendant 2 ans et tu veux en plus que je te rende ton argent? Dis-moi d'abord, as-tu pensé à lui donner ton adresse avant d'ouvrir la porte de la cage ?»«
Ah non !» dit Mustapha. « Alors comment veux-tu qu'elle retrouve ta maison si elle ne connaît pas l'adresse ?»
Et c'est ainsi que Nasreddin garda l'argent pour lui. À l'époque où les ponts étaient encore rares sur le fleuve, Nasreddin travaillait comme passeur. Avec sa petite barque, il faisait traverser les gens d'une rive à l'autre contre quelques misérables piécettes. Un jour, un grand savant, les bras chargés de livres, prit place dans la barque. Nasreddin lui souhaita la bienvenue et parla avec lui de choses et d'autres. Le savant se rendit compte que Nasreddin ne maîtrisait pas bien la grammaire et que sa façon de parler n'était pas très recherchée. Alors il lui demanda « Mon ami, n'es-tu jamais allé à l'école ?»«
Non, » répondit timidement Nasreddin, et il continua de ramer.
« Alors, mon ami, sache que tu as perdu la moitié de ta vie. » Nasreddin fut vexé, mais il garda le silence. Lorsque la barque fut parvenue au milieu du fleuve, un courant rapide la renversa et les deux hommes se retrouvèrent à l'eau assez loin l'un de l'autre. Nasreddin vit le savant qui se débattait pour ne pas se noyer et il lui cria « Est-ce que tu as appris à nager, maître ?»
« Non !» répondit le savant en continuant à se débattre. « Au secours! Au secours !»
Nasreddin lui dit « Alors, mon ami, tu as perdu ta vie tout entière. »
What a wonderful world.
Tard dans la nuit, Nasreddin Hoxha était dans la rue à tourner en rond sous un lampadaire. Son voisin, qui rentrait d'une longue soirée, passa près de lui. « Que fais-tu, Nasreddin, si tard ?»«
J'ai perdu la clé de ma maison. »«
Bah, t'inquiète pas !» Je vais t'aider à la retrouver. » Le voisin se mit à chercher avec Nasreddin. Ils regardèrent partout, sous les pierres, sous les feuilles mortes, dans la poussière, mais en vain, il n'y avait aucune trace de clé.
« Mais dis-moi, Nasreddin, » dit le voisin, « es-tu sûr d'avoir perdu ta clé ici ?»«
Non, je l'ai perdue dans l'autre rue, là-bas. »«
Mais pourquoi tu la cherches ici ?»«
Parce que là-bas, il fait sombre, alors qu'ici, il y a la lumière du lampadaire. »
Over the rainbow.
Un jour, à la fin du marché, Nasreddin ne retrouva pas son âne qu'il avait attaché à un arbre. 3 hommes venaient tout juste de le lui voler afin de le vendre dans la ville voisine. Le plus sérieusement du monde, Nasreddin Hoxha grimpa sur une terrasse et se mit à crier à qui voulait l'entendre. « Rendez-moi mon âne, sinon je ferai exactement ce qu'a fait mon père quand on lui a volé le sien !» Les gens se rassemblèrent et se demandèrent inquiets. « Est-ce que quelqu'un sait ce qu'a fait le père de Nasreddin ? Est-ce que quelqu'un est au courant de son histoire ?» Mais personne n'en avait entendu parler. La menace se propagea vite et arriva aux oreilles des voleurs. Saisis par la peur, ils s'interrogèrent. « Sais-tu ce qu'a fait le père de Nasreddin ?»«
Non. Et toi ?»«
Ben moi non plus. Alors il vaut mieux ne pas courir de risque. Allons lui rendre son âne. » Et les 3 voleurs revinrent un peu gênés. « Tiens, Nasreddin, nous voulions seulement te faire une blague. » Très dignement, Nasreddin reprit son âne et se prépara à rentrer chez lui. Un homme, pourtant, osa enfin lui poser la question qui intriguait tout le monde. « Qu'a fait ton père, au juste ?» Le jour où on lui a volé son âne.
« Que voulais-tu qu'il fasse ?» répondit Nasreddin.
« Il en a acheté un autre. »
Somewhere over the rainbow.
Et voilà, il est déjà temps de se quitter. C'est passé vite, hein, toutes ces petites histoires de Nasreddin en 20 minutes. Vous avez le temps de les réécouter si vous n'avez pas tout compris ou tout entendu. On se retrouve le mercredi et le samedi à 16h. Et je suis sûre que parmi toutes ces histoires, il y en aura une que vous aurez envie de raconter à votre tour.